Portez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, la toute nouvelle émission de sport de Radio Présence. Tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même donnerons les résultats sportifs de la région tout en balayant l'actualité sportive de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Aujourd'hui, nous aurons les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Nous vous donnerons les résultats sportifs du week-end. Vivien Desabreux, coach mental, viendra nous parler de son métier. Et pour conclure, nous parlerons de l'équipe de France de football qui fait elle aussi sa rentrée aujourd'hui. Et nous parlerons de l'US Open qui se poursuit cette semaine sans les Français. Pour parler de tout ça, Timothée Rouvière. Bonjour Timothée.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et Marek Keta, bonsoir.
Bonsoir Marek. À tous, bonsoir.
Messieurs, bonsoir.
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 Bon, j'estime, je vois les sourires sur vous tous. Je pense que vous avez passé un super été avec l'équipe de France de football. Amoureux de sport, c'est formidable ce qui s'est passé cet été.
Ah, c'est la consécration. Hein. De toute façon, voilà, une Coupe du Monde. Quel que soit le sport, et encore plus le football, le roi des sports, c'est magnifique.
Et d'ailleurs, Maxime, oui. Vous n'avez pas vu la Coupe du Monde en France, la particularité quand même.
Je ne sais pas si c'est un privilège, mais j'étais chez nos cousins au Canada.
La journée est plus longue pour fêter le titre.
Ah oui, ça a commencé à 10h du matin et ça a fini très tard. À Toronto, j'étais. Finalement, enfin, il y avait beaucoup de Français qui s'étaient regroupés pour voir le match et pour célébrer. Mais en dehors de ça, les Canadiens n'ont pas du tout, très peu parlé et pas du tout fêté la victoire.
Ils sont jaloux.
Ils aiment le hockey, mais pas le foot.
Exactement. Marek, amoureux de sport, bien évidemment, c'est la consécration, pour les passionnés de football.
Bah attendez, moi, contrairement à Maxime, j'ai vécu ça ici, dans notre chère Toulouse. Alors, j'ai pas sauté du pont Saint-Pierre, hein, pour ceux qui ont vu.
Il y en a qui l'ont fait.
Il y en a qui l'ont fait, hein, ils sont courageux. Bon. Mais écoutez, super été, qui a brillé de mille feux. Hein.
Et la victoire, on va en parler tout à l'heure pour le premier débat avec l'équipe de France. Mais la victoire est globalement méritée, Timothée, de l'équipe de France. Et ça nous fait plaisir.
Ah oui, on peut que être content. De toute façon, sur l'ensemble de la compétition, on voit bien que les Bleus ont maîtrisé leur sujet. Les grosses équipes sont tombées contre des équipes plus faibles. Et moi, j'aimerais surtout attirer votre attention sur les autres résultats des équipes françaises et des sportifs français. On pense notamment aux Jeux européens, où avec 13 médailles, une quarantaine de 13 médailles d'or et une quarantaine de médailles, on est quand même satisfait de ce côté-là.
Le sport français se porte bien.
Oui, on peut
le
dire.
À part le tennis, on va en parler également. On va y parler également tout à l'heure. On va voir si votre bonne humeur continue avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlerez, messieurs, d'un événement qui vous a fait plaisir ou non cette semaine. Et je dois dire que pour cette rentrée, vous êtes particulièrement content. Après un match nul initial à Lyon, le Stade Toulousain s'est imposé ce week-end. Et c'est votre coup de cœur de la semaine, Maxime Brossard.
Oui, un week-end rouge et noir, une rentrée en rouge et noir, je dirais même plus. Le Stade Toulousain qui a pris 6 points sur 10 possibles à l'extérieur. Bon, on va pas s'enflammer, hein. C'est le début de saison, ça fait que 2 matchs, mais de ce que j'ai vu, je suis plutôt étonné du contenu des matchs. Sur quelques actions, on retrouve vraiment ce qui était l'ADN de cette équipe, le jeu à la Toulousaine, un jeu aéré, un jeu qui va chercher ses ailiers. Comme l'a dit William Servat après Grenoble, il y a encore quelques réglages à faire, notamment au niveau des rucks et des ballons portés. Les libérations sont un peu lentes et quelquefois ça pinaille un peu dans les ballons portés pour éjecter la balle, mais après, au-delà de ça, je trouve cette équipe très convaincante et j'attends la confirmation ce week-end contre La Rochelle.
Justement, est-ce que il y a deux saisons, le Stade Toulousain termine 12e, est-ce que le fait de descendre aussi bas pour l'un des monuments du rugby français n'a-t-il vraiment, au fond, pas fait du bien
C'était une saison de transition, cette saison où on fait 12e, en fait, puisque c'était la saison, l'après Guinovès, il y avait aussi le départ de Thierry Dussautoir, c'était compliqué, puis là c'est une nouvelle équipe qui revient avec des nouveaux joueurs, des jeunes. Et après, c'est sûr qu'il y a quand même encore beaucoup de travail. Quand on voit clairement qu'il y a atomisé le Racing 92, même s'il y a aussi du déchet. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est de bon augure pour la suite. Et je pense que le Stade va faire une belle saison cette année.
Ils peuvent viser le titre. L'année dernière, ils perdent en barrage. Est-ce qu'ils peuvent viser le titre cette année, le Stade Toulousain ?
Potentiellement, oui. Mais le problème du rugby, c'est que la phase finale rebat toujours les cartes. C'est très aléatoire. Regardez Castres, qui a été champion l'an dernier. Ils ont fait sixième. Et ça a été la grosse surprise.
Ils arrachent les barrages
à la dernière journée. Exactement.
Et ils finissent champion de France.
Donc le rugby, étant donné qu'il y a les phases finales, ça rebat tout à chaque fois. Et c'est la magie du rugby aussi.
Et il y a encore un coup de cœur. Cette fois-ci, c'est en vélo où les Français se portent bien, Timothée Rouvière.
Ah oui, Jean. Alors après un Tour de France magnifique, on va dire, avec les victoires d'Alexandre Démare, de Julien Alaphilippe, les Français nous font plaisir sur la Vuelta. Alors, des Français qu'on n'attendait pas forcément. On pense tous à Thibaut Pinot qui était favori pour la victoire finale, au même titre que Nairo Quintana, Alejandro Valverde. Mais c'est plutôt son lieutenant en montagne, Rudy Mollard, qui était encore leader du classement général de la course il y a quelques jours. Mmh. Bon, il a perdu son maillot au profit de Simon Yates, mais c'est des Français qui font plaisir. On a aussi deux victoires d'étape avec Nasser Bouhanni lors de la sixième étape qui était au fond du trou. La presse lui prêtait une altercation avec son directeur sportif. Mais le Français de la Cofidis, qui n'a pas été retenu pour le Tour de France, je le rappelle, s'est imposé dans les cadors du sprint. On pense à Elia Viviani, Peter Sagan ou encore Danny Van Poppel. Mais aussi, mon autre coup de cœur, c'est toujours être sur la Vuelta, mais c'est Tony Gallopin qui s'était gravement blessé lors du championnat de France. Il avait cassé ses côtes, habituel second couteau de AG2R La Mondiale, qui remporte une belle victoire devant le peloton. Donc voilà, ça fait plaisir.
Finalement, est-ce que le vélo, c'est le même problème que le tennis? On attend toujours un Français qui gagne Roland Garros. Est-ce que cette fois-ci, c'est possible qu'un Français gagne sur les 2-3 années qui arrive le Tour de France, qu'on attend depuis très très longtemps.
Alors c'est sûr, on attend depuis Bernard Hinault qu'un Français gagne le Tour de France. Ça va être compliqué parce que face à l'armada des Sky, des BMC, les Richie Porte, les Guérin Thomas ou encore les Christopher Froome, ça risque d'être compliqué. Mais on a des Français qui sont offensifs, qui nous font plaisir chaque jour. On pense à Warren Barguil, on pense à des sprinteurs, à Julien Alaphilippe. On a de bonnes raisons d'espérer en tout cas.
Et les Français peuvent continuer encore de nous faire plaisir sur...
Ils peuvent nous faire plaisir. On a le championnat du monde d'Innsbruck en septembre prochain, donc voilà, un parcours sinueux qui pourrait convenir à Romain Bardet par exemple.
Et c'est un 3 sur 3 cette semaine puisque vous avez aussi, Marek Keita, un coup de cœur, et c'est pour Luka Modric, le footballeur, le finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie, qui a été élu meilleur joueur de l'UEFA de la saison pour la Ligue des Champions, c'est bien ça?
Ouais, Luka Modric, je m'en cache pas, qui est mon petit chouchou dans le football, et puis donc il a remporté ce titre du meilleur joueur européen jeudi dernier lors de la cérémonie
à Monaco.
Alors il avait déjà remporté quelques distinctions individuelles. Il a été élu meilleur milieu de terrain de la Liga en 2014 et 2016. Il a fini cinquième au Ballon d'Or l'an dernier en 2017. Et bon, cette année, on le sait, il a été élu donc meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Je pense que ça a d'ailleurs un peu influencé les votes. Mais aujourd'hui, en fait, en remportant ce titre à 32 ans, il marque d'une pierre blanche un peu son arrivée à ce que je pense être les plus grands joueurs de tous les temps. Bon, c'est mon humble avis, mais...
Pour être dans les plus grands joueurs de tous les temps, il faut gagner le Ballon d'Or aussi. On en parle souvent du Ballon d'Or. Là, il remporte la Ligue des Champions. C'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il fait finale de la Coupe du Monde avec la Croatie, où c'est lui qui porte quasiment lui tout seul la Croatie. Est-ce qu'il peut gagner le Ballon d'Or en sachant qu'il va être en concurrence avec des Français qui ont gagné la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe?
Alors, moi, je pense qu'il est plutôt en bonne voie, là. D'ailleurs, il a été nominé dans le top 7 aujourd'hui des joueurs nominés pour ce Ballon d'Or 2018. Et puis même, c'est un talent qui est plus à faire, quoi. Alors, ce que je tenais aussi à souligner, c'est que, pour une fois, ce trophée de meilleur joueur européen, il revient non pas à un attaquant, mais à un milieu de terrain.
Ça change.
Quand on voit sur les dernières années, c'était, excuse-moi de vous couper, mais c'était Ronaldo, c'était Ribéry. Maintenant, ça c'est un milieu de terrain. Voilà, on valorise un peu ce qui se fait au milieu, quoi.
Et justement, depuis 10 ans, messieurs, c'est Lionel Messi, Cristiano Ronaldo qui arrachent le Ballon d'Or à toute la planète foot.
J'en ai marre, moi.
Est-ce que cette année, justement, Maxime, cette année, normalement, c'est terminé. C'est ni Ronaldo, ni...
Ah oui, mais j'ai même envie de dire, c'est terminé. Ouais. C'est un peu trop, là.
Mais c'était mérité.
C'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire du foot, je pense, avec Maradona et Pelé et Zidane, bien sûr. Mais là, un Croate dans le classement, ça pourrait faire du bien. Ça va rafraîchir un peu tout ça.
On se retrouve dans moins de 4 minutes, messieurs, pour les résultats sportifs du week-end. Et nous aurons Vivien Desabreux, coach mental. À tout de suite.
Entre tout autre chose. j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude de sentir mon profond. Sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte.
C'était Gérald De Palmas sur la route sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, j'en suis un état.
Et c'est un week-end chargé pour tous les amoureux de sport. On fait le point avec vous, Timothée Rouvière, sur l'actualité sportive avec le football et la belle dynamique toulousaine se poursuit à Guingamp.
Oui, les Violets se sont imposés 2-1 face à Guingamp avec des buts de Max-Alain Gradel et Sangaré contre un but de Marcus Thuram. Un match compliqué pour les Toulousains, réduit à 10 dès la 26e minute et qui ont pu compter sur leur gardien Baptiste René pour ramener les 3 points. Les hommes d'Alain Casanova en profitent pour monter sur le podium après 4 journées de Ligue 1 Conforama. Au classement, c'est toujours le Paris Saint-Germain qui est en tête après sa victoire difficile face à Nîmes, 4-2. On rappelle Kylian Mbappé qui est impliqué sur les 3 buts.
Et qui a été expulsé.
Donc on verra qu'est-ce que dit la commission de discipline. Et grâce à sa victoire sur Caen 2-0, les Dijonais sont toujours deuxième devant donc le Toulouse Football Club.
Et les clubs de Toulouse, en ce début de saison, marchent fort puisque le Stade toulousain s'est imposé.
Oui, les Stadistes sont allés décrocher une belle victoire à l'extérieur à Grenoble, 23-20. Les Toulousains ont résisté aux assauts des pensionnaires du Stade des Alpes pour aller décrocher les 4 points de la victoire et ainsi grimper comme leurs homologues du foot à la 3e place du classement. Un classement toujours dominé par le Stade français qui compte 2 victoires, ainsi que le Castres Olympique qui est 2e, donc les champions de France qui se sont imposés face à Lyon 19-16 grâce à une pénalité à la dernière minute de l'international français Rory Cocotte.
Et en Pro D2, c'est la soupe à la grimace pour les clubs de la région par
contre. Ah oui, ça va mal avec les défaites de Montauban face à Soyaux et de Colomiers contre Oyonnax. En tête du classement, c'est Bayonne qui domine devant Oyonnax et Béziers. Montauban est 4e et Colomiers 15e, juste devant Massy qui ferme la marche.
Et en tennis, comme d'habitude, il y a déjà plus de Français au début de la 2e semaine.
Ah oui, on en parlera tout à l'heure, mais le tennis, mais il n'y a plus de Français. Voilà, comme vous le dites, à l'US Open, ce week-end, la Française Caroline Garcia, qui était pourtant une des meilleures choses françaises, a perdu face à l'Espagnol Suarez Navarro. C'est aussi fini pour Richard Gasquet, défait par un Djokovic qui revient à son meilleur niveau cette fin de saison, mais aussi pour le prodige, si on peut dire français, Lucas chapouille face au Portugais João Sousa.
En Formule 1, victoire encore une fois de Lewis Hamilton au Grand Prix de Monza en Italie.
Bah oui, on prend les mêmes et on recommence. Hein. C'est l'Anglais leader du championnat du monde, Lewis Hamilton, qui s'est imposé devant deux Finlandais, Kimi Raikkonen sur Ferrari et Valtteri Bottas sur Mercedes. Le quadruple champion du monde allemand, Sébastien Vettel, qui avait à cœur de briller sur les terres de Ferrari à Monza, donc en Italie, n'est que quatrième après un accrochage dans le premier tour avec le pilote anglais Lewis Hamilton. Beau résultat par contre pour Esteban Ocon, qui est toujours à la recherche d'un volant pour l'année prochaine, qui accroche la sixième place. Et pour finir, un petit mot de handball, c'est le champion d'Europe Montpellier qui remporte le trophée des champions, qui réunissait entre autres Nantes, Paris, Saint-Raphaël,
les quatre meilleures équipes de la dernière saison.
Et on peut aussi souligner la victoire de Saint-Raphaël face à Montbéliard lors du Trophée des Champions. C'est Nantes qui prend la troisième place après avoir battu le PSG au tir au but, 34-34 et 12 tirs au but à 11. Pour rappel, le PSG s'était lui imposé en fin de semaine dernière dans l'Euro-Tournoi face à Montpellier. La compétition amicale regroupait les meilleures équipes du continent. Mais que nos auditeurs se rassurent, le handball c'est loin d'être fini puisque la saison débute cette semaine. Au programme Toulouse-Chambéry, Paris-Ivry, Montpellier-Aix-en-Provence ou encore Saint-Raphaël-Nîmes.
Merci Timothée Rouvière et tout de suite l'invité.
Sportez-vous bien. L'invité.
Et pour l'invité de Sportez-vous bien, Vivien Desabreux est avec nous, préparateur mental et coach en développement personnel. Vivien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Voilà, comme je viens de le dire, vous êtes préparateur mental et coach en développement. En quelques mots, pour expliquer aux auditeurs et pour nous expliquer, qu'est-ce que c'est ?
En gros, c'est accompagner l'individu à passer au-dessus de ses propres limites. La gestion du stress, par exemple, quelqu'un qui subit énormément de stress, que ce soit pour un sportif ou un particulier. Ça peut être un étudiant, par exemple, pour une période d'examen, ce qui est un peu plus connu du grand public. Ça peut être également travailler sur l'estime de soi, les gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, et toutes ces choses-là.
Est-ce plus compliqué, finalement, de s'occuper, entre guillemets, d'un sportif que d'un étudiant ? Est-ce qu'il y a une différence, justement, entre les différentes activités, les différents métiers pour les personnes ?
Ce qui va faire la différence entre les individus, c'est pas forcément leur sport ou leur activité, on va dire, c'est plutôt l'individu en lui-même. On peut avoir un sportif qui va être très détendu, et un étudiant qui va être très stressé, et inversement, c'est pas lié forcément uniquement à l'activité, c'est plutôt la personne par rapport à son histoire, excusez-moi.
Vous prenez les gens individuellement ou ça peut être en groupe également?
Alors, je les prends plutôt individuellement, mais je fais également du coaching collectif. C'est un peu plus rare que l'individuel. Ce qui fait mon quotidien, on va dire, c'est plutôt le coaching individuel.
Vous avez travaillé au FC Sochaux-Montbéliard, au centre de formation. Quel a été le lien avec les éducateurs, avec les parents des joueurs ?
J'ai travaillé pendant un an au sein du centre de formation du FC Sochaux. Alors, j'avais pas de lien directement avec les parents, j'en avais plutôt un avec les joueurs en direct, que je côtoyais pendant les séances d'entraînement et donc en dehors pendant mes séances de coaching avec eux. Et en ce qui concerne l'échange avec les éducateurs, c'était plutôt eux qui me remontaient des informations quand je pouvais pas être là, par exemple, sur certaines compétitions, puisque je me déplaçais pas forcément. Donc ils me faisaient des retours plutôt sur ce qui était le comportement ou ce qu'ils avaient pu analyser pendant les matchs.
Voilà. Et est-ce qu'on dit tout à l'entraîneur ? Là, un joueur nous parle, est-ce qu'on est obligé de tout dire à l'entraîneur ?
Alors, que ce soit dans le sportif ou pas, il y a une clause de confidentialité entre ce que j'appelle le coaché, donc la personne qui vient me voir, et moi-même. La seule façon de casser un petit peu ça, c'est que ce soit lui qui me donne cette autorisation ou qui me dit « vas-y, tu peux en parler à mon coach, enfin à mon entraîneur, et là je peux dire certaines choses, voilà, comme un accord avec le coaché », mais en aucun cas on peut casser ça.
Maxime Brossard.
Bonsoir Vivien. J'avais une question. Moi, c'était par rapport au sport que vous êtes amené à traiter. Jean a dit que vous avez travaillé avec le FC Sochaux, et je voulais savoir si vous aviez travaillé avec des sportifs qui pratiquent un sport individuel ou d'autres sports collectifs.
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, je travaillais avec un jeune joueur de niveau national, pareil, de Bordeaux-Bègles en rugby,
ah, oui,
donc également top 14, un sportif qui a du fait du VTT de descente, ah oui, au niveau européen. Voilà. Donc on a de l'individuel et du collectif.
Et par rapport à la préparation, en fait, est-ce qu'on prépare un sportif qui fait un sport collectif de la même manière que l'on prépare un sportif qui fait un sport individuel ?
À partir du moment où j'ai un individuel, justement, même si tu es sportif, je vais travailler uniquement
Ah, je crois qu'on a perdu Vivien Desabreux.
Un sport collectif.
Oui.
Lui, il va pouvoir travailler uniquement. Enfin, je pourrais travailler avec lui uniquement sur sa propre personne et pas sur les parties sur les autres.
Ok.
Les joueurs, on reprend le cas du FC Sochaux, même du joueur de Bordeaux-Bègles et le cycliste. Est-ce qu'ils venaient vers vous ou pas du tout? C'est vous qui faisiez la démarche? Quelle est la relation que vous avez avec les joueurs?
Alors, l'objectif, c'est que ce soit lui qui vienne vers moi. Il faut que ce soit une démarche qui soit totalement personnelle pour qu'il soit impliqué au maximum. C'est comme quand, je prends toujours l'exemple du fumeur. Quand on force quelqu'un à arrêter de fumer, en général, il s'arrête temporairement, il finit par reprendre. Le fumeur qui décide de lui-même de faire la démarche aura déjà beaucoup plus de sens et garantira davantage de résultats. Donc en coaching, ça va être la même chose. Si le sportif décide de venir me voir, c'est qu'il y a une réelle envie chez lui de vouloir avancer. Quand on fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour gérer son stress, ses émotions ou l'image de soi, toutes ces choses-là, on se livre un petit peu et du coup, c'est vraiment qu'on a envie d'avancer.
Il y a surtout une certaine confiance à installer pour finalement mieux travailler avec le sportif.
Exactement, il faut une grande confiance. Il faut qu'il y ait une confiance du sportif envers moi, mais également de moi envers le sportif. Si je sens qu'il y a beaucoup trop de freins, que l'individu, par exemple, ne travaille pas de son côté, parce que le plus gros du travail ne se passe pas forcément quand il est en coaching avec moi, mais plutôt quand il est dans son coin, où il y aura énormément de travail de réflexion avec différents outils. Si je sens qu'il n'y a pas d'investissement dedans, il n'y a aucun intérêt pour les deux parties de continuer ensemble, parce que lui n'avancera pas. Au lieu d'avancer, il va traîner ça pendant quelques années.
Marek Keta.
Bonsoir Vivien.
Bonsoir.
J'aimerais réagir à ce que vous venez de dire. En fait, j'aimerais peut-être que vous nous donniez un exemple de. Est-ce que vous avez eu un cas d'un joueur qui vous a demandé quelque chose en particulier? Je pense, par exemple, je reviens un peu sur l'exemple du foot, mais on sait que, par exemple, les Anglais ont eu un préparateur pour les séances de pénalty pendant la Coupe du Monde. Je me demandais si, par hasard, vous, à FC Sochaux, ou même ailleurs, vous aviez eu des demandes en particulier.
Alors moi, c'était plutôt sur le côté individuel. C'était avec un attaquant qui avait des problèmes devant le but, en fait. Pas forcément sur des pénalty, des tirs au but, mais vraiment sur des actions de jeu.
Ouais, sur les problèmes de finition.
Voilà, exactement. C'est un attaquant qui marquait plus de buts, comme ça arrive souvent, on en voit en Ligue 1 par exemple. Et nous, on a travaillé les deux ensemble là-dessus.
Pour les sportifs de haut niveau, que ce soit le rugby, le football ou même d'autres, on est amené à jouer devant potentiellement 30, 40 000 personnes. On est amené aussi à être critiqué. Comment on gère l'estime de soi, la gestion de l'émotion pour ces sportifs qui sont souvent très très jeunes?
Alors j'utilise avec eux souvent des outils issus de la sophrologie. Pour travailler sur la relaxation et détendre le joueur. Alors, ça se travaille d'abord détaché totalement du monde sportif, voilà, où on se met dans des contextes favorisants et on s'entraîne sur certains exercices. Donc, c'est un peu rabâché. C'est comme le joueur de foot qui apprend à faire sa passe, quoi. Les premiers entraînements, il va faire des passes, il va réviser ses gammes. C'est un peu la même chose. Une fois que l'exercice est maîtrisé, l'entraînement est plus sporadique. Par contre, il est totalement appliqué sur le terrain. Alors, ça peut être avant de rentrer sur le terrain, par exemple, à la reconnaissance des terrains, ça peut être à la mi-temps d'un match, ça peut être même pendant un match sur les différents temps morts, pour venir un peu se calmer. Et je travaille également avec l'imagerie mentale, qui produit les mêmes effets.
C'est vraiment psychologique, on s'aperçoit de ça. Il y a un suivi derrière, avec le joueur?
Alors déjà, le sportif que je suis, je les vois, même pour parler des particuliers également, je les vois une fois par mois, pas plus, pour qu'il y ait un énorme travail de réflexion et également d'entraînement, quoi. C'est des nouveaux outils qu'ils apprennent. Et le travail de suivi, ouais, c'est une fois par mois. Et après, si lui, le sportif, a des demandes pour qu'on se revoie un petit peu pour faire des petits points, c'est possible aussi.
Il y a aussi, par exemple, pour prendre l'exemple du centre de formation où vous étiez, il y a la préparation à l'échec aussi qui doit être important, puisqu'on le sait très bien, sur la vingtaine, 25 joueurs des moins de 19 ans de chaque club, il y en a deux ou trois qui signent professionnel. Quelle est l'importance que vous amenez à l'échec? Il faut préparer à l'échec, finalement. Quelle importance vous apportez à ça, accordez à ça?
Alors, justement, j'ai eu l'année où j'étais au FC Sochaux, j'ai justement eu des joueurs qui n'ont pas signé pro, et qui n'avait fait, même avant même de signer pro, qui n'allait pas être conservé au sein du club. Eux, j'ai travaillé un petit peu en amont sur leur orientation professionnelle. Alors, on commence, donc c'est toujours le travail sur l'estime de soi, où on va essayer de chercher des choses qu'ils aiment. Alors forcément, ils aiment le foot, mais ils aiment peut-être d'autres choses, ou même des métiers en relation avec le foot, mais pas forcément le football professionnel. Ça peut être devenir éducateur sportif, ça peut être toutes ces choses-là. Et le but, c'est que de lui-même, le sportif trouve des solutions à sa problématique. Donc là, même s'il n'a encore pas eu de réponse définitive, c'est commencer à réfléchir à des pistes pour pouvoir se réorienter et ne pas ne pas être trop déçu malgré. Enfin, la déception sera quand même présente à l'issue du processus, mais trouver des pistes pour aller mieux dans le futur. C'est ce qui se fait beaucoup en coaching.
Préparateur mental et coach en développement personnel, c'est avant tout un métier. Quel parcours, quelle étude faut-il avoir pour exercer ?
Alors aujourd'hui en France, il n'y a pas de législation justement sur le métier, ce qui peut porter un peu préjudice à ce métier-là. Mais il existe des formations qui sont fortement recommandées. Donc moi j'ai fait une licence en STAPS dans l'entraînement sportif, donc la fac de sport pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai passé le diplôme d'entraîneur et après je me suis orienté en fait sur tout ce qui était aspect préparation mentale en côtoyant certains profs à l'université. Et j'ai fini par faire un diplôme universitaire en coaching et en développement personnel.
Actuellement, vous êtes à votre compte, c'est bien ça ?
Exactement. Depuis le mois de janvier, j'ai ouvert ma structure.
On peut vous suivre sur Facebook et sur un site internet ?
Exactement. Donc ma page Facebook, c'est Vivien Delabreux Coaching. Et le site internet, c'est viviendelabreuxcoaching.com.
Vivien Delabreux, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien sur Radio Présence ce soir. On vous dit à très vite.
À bientôt, merci à vous.
On se retrouve dans moins de 4 minutes sur Radio Présence. À tout de suite. C'était les Enfoirés sur Radio Présence.
Portez-vous bien. Le débat.
Et tous les lundis, nous aurons en fin d'émission les débats pendant à peu près une demi-heure. Aujourd'hui, nous commençons avec le tennis. Juste le temps de présenter notre nouveau chroniqueur spécialiste tennis, Damien Mazillier. Bonjour Damien.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On va parler donc de l'US Open, le tennis qui, malheureusement, messieurs, pour la première fois depuis 1980, aura aucun Français en quart de finale sur les quatre grands chelems de l'année. C'est une déception absolument... c'est limite même pas une déception, finalement, de ne pas avoir de Français en quart de finale, Damien.
Oui, exactement. Pour moi, ce n'est pas une déception, mais ils sont à leur place. Peut-être deux déceptions, parce qu'en quart de finale, c'est... les 8 meilleurs joueurs ou joueuses au monde. Caroline Garcia est 6e mondiale, donc elle aurait pu prétendre à être dans le dernier carré. Elle ne l'est pas. Mais sinon, les autres Françaises, il n'y en avait pas beaucoup dans le tournoi final. Oui, une seule déception côté française. Et côté français, pareil, c'est les 8 meilleurs joueurs mondiaux. Il n'y en a pas en France, il n'y a pas de Français dans les 8 meilleurs joueurs mondiaux. Il y a juste Luca Pouille dans le top 15. C'est peut-être aussi une petite déception, mais sinon les autres, non.
Luca Pouille, c'est vraiment la grosse déception, Luca Pouille, de pas le voir dans le dernier carré, on le vend un peu comme le futur Yannick Noah. Est-ce qu'il ne faut pas s'enflammer?
Le problème, c'est qu'il y a de très bons joueurs devant qui barrent un peu la route de ces jeunes Français ou autres jeunes joueurs. Donc c'est compliqué de s'imposer. Après, ça fait quelques mois que Luca Pouille est un peu moins bon, je trouve, que par exemple l'année dernière. Donc, à voir ce qui se passe dans les semaines à venir.
Pourquoi ça marche pas, Timothée ?
Alors, pourquoi ça marche pas ? Pour rebondir sur ce que disait Damien, la déception elle est d'autant plus grande parce que là, Richard Gasquet face à Novak Djokovic qui est en train de revenir à un niveau phénoménal, c'est compliqué. Mais Caroline Garcia face à l'Espagnol Suárez Navarro.
Là, c'est une déception.
Ou Luca Pouille face à un Portugais, João Sousa. C'est une vraie déception. On est sur, comme disait Damien, sur la triste lignée depuis le début d'année. Depuis Yannick Noah, aucun Français n'a remporté le Grand Chelem. Les Français brillent, mais en petit tournoi, donc c'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas si une réforme devrait un petit peu donner un bon coup de pied là-dedans, mais voilà, il faudrait agir parce que la France est un pays de tennis et c'est un petit peu triste de voir le tennis français à ce niveau-là.
Maxime Brossard ?
Ouais, moi, enfin, je suis pas un grand spécialiste de tennis. Du coup, je vais me tourner un peu vers vous deux et je me demandais, on a quand même gagné la Coupe Davis et on a quand même, il y a dans la presse, on nous vend des joueurs avec un certain potentiel. Je pense à mon fils Tsonga. Et bon, moi, je rentre pas vraiment dans les détails. Je survole l'actualité du tennis et je me demandais quand même, c'est que le tennis français a du potentiel, mais en équipe, comment ça se fait qu'individuellement on marche pas en fait?
En équipe, on marche, mais on a gagné la Coupe Davis. Pour moi, cette année-là, c'est pas forcément avec des pays. Il y avait pas des têtes d'affiche dans chaque nation qu'on a rencontré. Là, cette année, on va rencontrer l'Espagne en demi-finale
avec Rafael Nadal.
Là, on va vraiment voir la valeur de nos Français. Donc là, il y a une tête d'affiche dans la nation en face de nous. Donc on va voir ce que ça va donner. Après. J'ai pas la solution. Pourquoi ça marche pas? Malheureusement.
Damien, vous faites du tennis, alors pas au niveau des professionnels, mais est-ce que c'est un problème mental finalement? Parce que quand il faut taper dans une raquette, faire un revers, faire une demi-volée, ça fait, mais c'est un problème mental, un problème physique. D'où vient le problème de pas avoir de Français, même dans le dernier carré finalement, au quart de finale à la limite, mais même dans le dernier carré, on n'a pas de Français, encore moins en finale.
Moi, je pense que ça vient de la mentalité française, la préparation, l'éducation, la préparation. Pour moi, un Français, par exemple, il va performer sur un match, et le match d'après, il est capable de s'effondrer sur un joueur plus faible que ce qu'il a rencontré avant. Pour moi, il se contente de peu, alors qu'il pourrait faire tellement plus, notamment Gaël Monfils, par exemple. Il a tellement de talent, ce joueur.
Il n'y arrive pas.
Il se contente d'une étincelle sur un tournoi et puis il est capable de faire le pire après, quoi.
Timothée Rouvière ?
Moi, je suis d'accord avec vous, Damien, comme quoi les Français et la Fédération s'attardent plus sur des problèmes de tenue, comme Alizé Cornet, comme Kristina Mladenovic ou Caroline Garcia, sur des blessures à répétition, sur des clashs entre entraîneurs et joueurs, plutôt que sur le réel niveau du tennis français. Et c'est triste à voir, vraiment.
Si on va plus loin, est-ce que ce que vit le tennis français actuellement, c'est pas ce qu'a vécu le football dans les années 2010 avec ce qui s'est passé à Nice. Est-ce que le problème, il est pas là? Le problème vient-il pas de la formation? Il y a pas
c'est
un suivi?
Justement, ce que j'avais demandé à nos deux connaisseurs, c'est en fait, j'ai l'impression que le tennis marche pas forcément bien. Et pareil, en survolant l'actualité, je vois jamais d'interview de président de fédération ou de personne en charge de la formation qui se remettent en question. Alors je sais pas comment fonctionne véritablement la formation des jeunes tennismen français, mais est-ce que vous avez un avis sur la question?
Alors contrairement au foot ou au rugby qui sont des sports collectifs, les joueurs français et les tennismans, mais c'est la même chose pour les skieurs, d'accord, ou autre chose, ont des entraîneurs, ont leur propre structure, d'accord, alors que les sports collectifs, ça va être une fédération qui gère tout ça. D'accord. Donc il faudrait peut-être se poser la question de réformer le tennis français, pourquoi pas créer une structure avec tous les joueurs français, des préparateurs physiques, des entraîneurs, des préparateurs mentaux, des médecins, voilà.
La fédération, finalement, ne doit pas aider les joueurs. On le voit très difficile. On prend l'exemple d'un jeune Toulousain, Benjamin Bonzi, qui fait quelques apparitions sur les tournois du Grand Chelem, comme Roland Garros. Est-ce que la fédération ne peut pas l'aider financièrement, avoir un entraîneur, avoir même une structure? Est-ce que c'est pas possible, ça?
Si, ça serait l'idée. De toute façon, c'est que les jeunes français, on pense notamment à Hugo Humbert qui a perdu au deuxième tour de l'Open d'Australie, bon, contre Stanislas Wawrinka, mais c'est des jeunes français comme ça, comme Benjamin Bonzi, comme Hugo Humbert, leur donner la possibilité d'avoir des moyens et financiers, mais aussi des moyens techniques, de pouvoir exister au plus haut niveau, parce qu'on sait que c'est compliqué, que le niveau du tennis mondial est très dense, et il faudrait donner les moyens à ces jeunes prodiges français de pouvoir exister au niveau international.
Tout à l'heure, Damien parler de Gaël Monfils. En parlant justement de Gaël Monfils et de Joe Wilfried Tsonga, on les a vendus très vite comme le futur, les potentiels vainqueurs d'un grand chelem. Damien, est-ce que c'est trop tard pour eux finalement par rapport à leur âge? Est-ce qu'ils ont laissé passer leur chance ou pas de gagner un grand chelem? Ou tout dépend d'un tournoi, beaucoup d'absents et ils vont au bout?
Pour moi, c'est trop tard, oui, parce que même s'il y a des gros joueurs qui seront absents, il y a toujours cette nouvelle génération qui arrive et je pense qu'ils sont plus forts que ce Gaël Monfils actuellement. Donc pour moi, oui, sa chance est passée, oui. Notamment pour Tsonga, notamment aussi Monfils, Gasquet aussi. Je pense que c'est fini, malgré que Djokovic ait été élogieux après son match, a fait pas mal de bonnes références à son jeu, à son comportement, à son mental. Mais je pense que c'est fini pour vous.
Si on doit cibler un Français qui gagne Roland-Garros, qui gagne un grand chelem, on va élargir, Lucas Pouille.
Pour moi, Lucas Pouille, oui.
Mais est-ce qu'il a les épaules actuellement? Est-ce qu'il a le niveau? Oui, il l'a déjà montré en faisant deux quarts de finale de grand chelem, Wimbledon et Roland-Garros en 2016. Est-ce qu'il a les épaules, le mental pour, les épaules pour?
Bien sûr, il est sportif de haut niveau, donc le mental il l'a, et les épaules, je pense qu'il les aura dans quelques années. Pour le moment, c'est un peu tôt pour moi, je pense. Mais je pense qu'il en est capable. Hein. Il en est capable.
Timothée Rouvière.
Je pense qu'on est vraiment là à un creux de génération où, pour les anciens, que ce soit Tsonga, Monfils, Gasquet, il y a les blessures à répétition qui gâchent la carrière de ces joueurs. Les jeunes qui ont peu de moyens ont du mal à émerger, mais c'est pareil pour le tennis féminin français. Je pense qu'il y a un creux de génération, comme vous l'avez dit en début de débat, l'équipe de France en 2010 à Naïsna. Il faut attendre, il faut donner moyens à ces jeunes de pouvoir exister. Et espérer qu'un Français puisse bien figurer.
Yannick Noah est capitaine de la Coupe Davis. Il a emmené le titre, il a retrouvé le titre avec la Coupe Davis. Est-ce qu'il ne manque pas un mec qui a de la gueule dans ce tennis? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits entre les fédérations, entre les joueurs. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un mec qui arrive
et
qui
Benoît secoue Père,
et qui... C'est vrai qu'il y a Benoît Paire.
Ça compense.
Qui secoue tout, ouais. Et qui l'ouvre et qui dit vraiment ce qui manque dans le tennis français par rapport aux meilleurs, par exemple l'Espagne.
Sans être connaisseur, j'ai donné mon avis, mais bon, j'ai pas l'impression que le tennis c'est un sport qui... Enfin, j'ai plus l'impression que c'est quand même assez cloisonné au niveau de la communication, on fait vraiment attention à ce qu'on dit. Déjà, c'est un sport qui a quand même une certaine image de marque, et bon, quelqu'un qui secoue vraiment, qui fait bouger les murs comme Benoît Paire par exemple, ben ça pose problème. Alors je sais pas vraiment si ce serait la solution.
Le bilan s'alourdit donc pour les Français contre le Big Four, contre les 4 premiers: 11 victoires sur 140 duels et seulement 4 sur les 104 derniers depuis la finale de Tsonga à l'Open d'Australie en 2008. Faudra attendre dès l'année prochaine pour retrouver éventuellement un Français dès les quarts de finale. On parle dans moins de 5 minutes de l'équipe de France de football, mais juste avant, le rendez-vous sport sur...
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
Et Coraline qui est très rapide, qui est très rapide ce soir. L'agenda sport, voilà, c'est pour l'émission. Timothée Rouvière avec Lucas Sertic que nous retrouverons la semaine prochaine. Dites-nous ce qui se passe cette semaine à Toulouse pour les amoureux de sport.
Oui, en cette rentrée, partez à la découverte des grands monuments toulousains. L'Office du tourisme de Toulouse propose une visite du cœur historique de la Ville Rose et vous donnera la possibilité de voir des monuments comme vous ne les avez jamais vus. Le Capitole, la Basilique Saint-Sernin, le couvent des Jacobins, j'en passe et des meilleurs. Pour les inscriptions, cela se passe à l'Office du tourisme. Et mercredi, c'est le retour de la saison de handball. Le Phénix de Philippe Gardan affronte Chambéry à 20h30 au Palais des Sports. Jeudi, l'Office du tourisme de Toulouse vous propose une randonnée culturelle. Accompagnée par des médiatrices culturelles, partez à la découverte du quartier Arnaud-Bernard, de son histoire mais aussi de son patrimoine. Une randonnée dans le style moyenâgeux qui vous permettra de trouver votre place dans ce lieu chargé d'histoire. Les inscriptions se font aussi auprès de l'Office du tourisme.
Merci Timothée Rouvière et on se retrouve tout de suite là pour le débat de l'équipe de France de football.
Sportez-vous bien. Le débat.
Le deuxième débat de la soirée après l'US Open et le tennis français qui se portait mal. Là, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Le 15 juillet dernier, l'équipe de France, on en a parlé tout à l'heure, remportait la Coupe du Monde 2018, la deuxième de l'histoire en battant la Croatie 4-2. Ce matin, les Bleus se sont retrouvés pour la première fois pour préparer les matchs contre l'Allemagne jeudi et les Pays-Bas dimanche pour l'UEFA Ligue des Nations, la toute nouvelle compétition des sélections nationales. Timothée Rouvière, premièrement, qu'est-ce que la Ligue des Nations ?
Alors, la Ligue des Nations, c'est une nouvelle compétition européenne qui réunit 55 équipes réparties en 4 groupes de division. La première division regroupe les 12 meilleures nations européennes, la deuxième regroupe les 12 suivantes et ainsi de suite. Au sein de chaque division, 3 ou 4 groupes de qualification. Du 5 au 9 juillet 2019, une phase finale aura lieu. Elle permettra en outre de décerner le titre de vainqueur de la Ligue des Nations pour les pays de la Ligue A, mais aussi aux pays occupant la première et la dernière place de leur ligue, de monter ou de descendre dans la division inférieure ou supérieure. Alors pour simplifier un petit peu tout ça, la Ligue des Nations c'est une nouvelle compétition qui remplace les matchs amicaux peu attrayants et qui offre surtout la possibilité à 4 équipes de se qualifier pour l'Euro 2020. Mais que les amateurs de foot se rassurent, cette Ligue des Nations n'a pas pour vocation de remplacer la phase de qualification pour l'Euro.
Il y aura l'Euro, les qualifications de l'Euro auront quand même lieu.
Voilà, elles auront lieu, il n'y a pas de souci pour ça.
Donc on pourra jouer quand même contre le Luxembourg et faire 0-0 avant d'être champion d'Europe, c'est bien
ça. Tout à fait, mais ça m'étonnerait avec l'équipe qu'on a actuellement.
C'est bien ça. Messieurs, l'équipe de France va jouer contre l'Allemagne, le précédent champion du monde, le précédent vainqueur, c'est un beau clin d'œil. Est-ce que l'équipe de France va avoir les épaules pour assumer ce titre de champion du monde, Marek Keita ?
Les épaules, je pense que... Ouais, je pense qu'on part déjà sans pression particulière, même si on joue contre un ancien champion du monde. Voilà, je pense que tout le monde déjà a fait ses preuves en club. S'ils sont là, c'est pour une raison. Si on est champion du monde, c'est pour une raison. Donc, bien sûr, les épaules, avec les joueurs de classe qu'on a, je pense que tout le monde est d'accord avec moi à cette table.
C'était l'un des effectifs les plus jeunes de la compétition. N'est-ce pas là le danger, finalement, pour Didier Deschamps et la sélection, d'avoir autant de jeunes ? Timothée Rouvière.
Alors, ça peut être le danger, mais voilà, on a quand même une équipe de France voilà, qui est jeune, comme vous le dites, mais qui est encadré par des joueurs qui ont une certaine expérience internationale. On pense notamment à Adil Rami, on pense notamment à Paul Pogba qui compte plus de 50 matchs en équipe de France. Donc même
déjà,
si, voilà, déjà 50 matchs pour Paul Pogba. Mais voilà, une équipe de France voilà, qui est jeune, qui a de jeunes talents, mais qui a une certaine expérience. Et je pense que la Coupe du Monde, avec des matchs couperets ou des matchs avec des scores fleuves, leur a permis d'acquérir une certaine expérience.
L'équipe de France, après chaque, même toutes les sélections, après chaque grande compétition, l'Euro ou la Copa América, la Coupe d'Afrique, plus la Coupe du Monde, il y a toujours un changement de cycle. Là, il a repris les 23 mêmes, les 21 mêmes, parce que Steve Mandanda a été remplacé par Benoît Costil. Et tout à l'heure, Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, a dû déclarer forfait, remplacé par le gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte. Est-ce que ça va être plus dur maintenant, avec ce statut de champion du monde, pour les nouveaux, de retrouver l'équipe de France ?
Ça va pas forcément être difficile, mais voilà, moi je pense que c'est un choix logique de la part de Didier Deschamps. Tous les 23 joueurs de l'équipe de France ont fait un bon début de saison, à l'image de Paul Pogba, d'Hugo Lloris ou encore d'Antoine Griezmann. Les Français seront plus attendus, ça c'est sûr, mais je pense qu'avec la facilité qui a été démontrée et les jeunes qui poussent bien derrière, on est serein pour l'avenir en tout cas.
Marek Keita.
Ouais, et puis comme l'a dit tout à l'heure Didier Deschamps lors de la conférence de presse, finalement, c'est pas un poids ce titre de champion du monde. Ils vont apprendre à le gérer. C'est aussi une question pour eux. Maintenant, c'est un challenge en soi pour eux. Ils ont un nouveau challenge. Maintenant, c'est apprendre à vivre avec ce titre. Et puis surtout, je dirais que c'est même un booster pour la suite. Montrer qu'ils sont pas champions du monde pour rien.
Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux par rapport à 1998. Est-ce pas plus simple entre guillemets de gérer l'après Coupe du Monde sur un titre, c'est-à-dire qu'en 98 les joueurs ne s'attendaient peut-être pas particulièrement, avaient une certaine notoriété même s'ils jouaient déjà à l'époque dans les très grands clubs. Là, avant de gagner une Coupe du Monde, tout le monde connaissait Paul Pogba, tout le monde connaissait déjà Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Antoine Griezmann. Finalement, le titre de champion du monde avec les réseaux sociaux, est-ce que ça va pas changer grand-chose?
Moi, je pense au contraire que ça va être plus compliqué parce que les footballeurs montrent leur vie, ils expliquent un petit peu tout ce qu'ils font au quotidien et donc ils sont attendus par beaucoup plus de personnes, leurs followers, tous les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux.
Comme vous dites, je pense que la part de vie privée des footballeurs a presque pris une ampleur supérieure sur la part de vie sportive, on va dire. Et quelquefois, les gens s'attardent peut-être plus à ce que font les footballeurs en dehors des terrains plutôt que ce qu'ils font sur le terrain. Et finalement, je pense que les réseaux sociaux, ça peut-être même desservir certains joueurs plutôt que de ne pas l'avoir, je pense. Donc, bon.
Et pour donner un exemple, on peut encore le voir sur le match de Kylian Mbappé. Le Français est exceptionnel en ce début de saison, mais c'est un joueur qui est attendu, c'est un joueur qui va être serré de près par les défenseurs.
Qui a 19 ans.
Qui a 19 ans.
Il est là depuis déjà 2-3 ans, mais il faut qu'il a 19 ans.
Mais ce statut de champion du monde renforce les...
Ils ne sont pas vus pareil, ça c'est évident.
C'est sûr.
C'est évident. Finalement, le point fort de l'équipe de France, on a vu que c'est très difficile de gérer l'après-Coupe du Monde. Est-ce que c'est finalement de ne pas avoir Didier Deschamps, qui lui a connu finalement cette après-Coupe du Monde, Marek?
Didier Deschamps, certes, il a l'expérience, il a les mots pour leur parler, pour leur dire comment réagir. Il disait tout à l'heure qu'il les avait accueillis avec le sourire, en les mettant en confiance. Voilà.
Oui, de toute façon, après Didier Deschamps, moi je pense que la force de Didier Deschamps, au-delà de sa connaissance, de la science qu'il a du football, c'est quelqu'un qui s'est fédéré, qui s'est rassemblé autour de lui. Et il y a beaucoup de joueurs qui le décrivent d'ailleurs presque comme un père, parce que c'est quand même quelqu'un qui, quand il était joueur, avait l'âme d'un capitaine, qui savait rassembler derrière lui, quelqu'un qui montrait l'exemple sur le terrain. C'était pas le plus grand technicien, mais c'était quelqu'un qui mouillait le maillot, qui était toujours en première ligne. Et en tant qu'entraîneur, il a le même discours, je pense, et il a vraiment su créer plus qu'un groupe. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une petite famille, cette équipe de France.
Timothée Rouvière, est-ce que finalement, il faut continuer à surfer sur cette vague? Oui, ça c'est une évidence, mais il y a des joueurs qui sont pas en fin de carrière, mais peut-être, sans leur manquer de respect, pour le niveau international, peut-être je pense à Olivier Giroud, qui a fait une Coupe du Monde, on peut me dire ce qu'on veut, exceptionnelle. Blaise Matuidi, est-ce que finalement des joueurs comme ça qui jouent encore à Chelsea, à la Juventus de Turin, je veux dire les matchs ils les enchaînent, il faut pas donner un nouveau cycle?
Alors c'est sûr qu'il faut donner un nouveau cycle, mais je pense que tous les Français se sont attachés à cette équipe de France, se sont attachés à ces joueurs certes vieillissants mais performants. Mais après comme je le disais tout à l'heure, faut pas s'étonner parce qu'au milieu de terrain on a un joueur comme Lucas Touzard, Tanguy Ndombele, devant il y a des jeunes comme Moussa Dembélé, donc la relève est là. Il va falloir se séparer des éléments qui n'ont plus le niveau international, mais pour l'instant, ça paraît plutôt bien si Didier Deschamps les a pris.
Pour l'instant, ça va. En parlant de jeunesse, il y en a un qui, normalement, va connaître la première sélection, c'est Alphonse Areola, avec les absences de Mandanda et de Hugo Lloris. C'est lui qui va prendre le numéro 1 pour ces deux matchs, normalement. Est-ce pas le moment idéal juste après la Coupe du Monde pour le rassurer, pour lui dire oui, tu fais bien partie du groupe?
Ah si, c'est une belle récompense pour Alphonse Areola, qui est un joueur qui a des origines asiatiques, qui n'a pas joué un match en Coupe du Monde, mais pour l'instant qui n'a aucune sélection en équipe de France, mais qui était un petit peu, on ne savait pas trop s'il partait du Paris Saint-Germain avec l'arrivée du légendaire Buffon. Mais je pense que c'est une belle récompense pour ce joueur-là, et on verra ce qu'il donne. Mais en tout cas, le match contre Nîmes nous montre que le gardien a le niveau.
Et d'ailleurs, avec Umtiti, avec Florian Thauvin, ce sont les trois seuls joueurs de mémoire qui sont double champions du monde, c'est-à-dire qu'ils ont été champions du monde U20 et ils sont champions du monde avec Léa. C'est quand même formidable. Marek, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'équipe de France face à l'Allemagne jeudi soir?
Face à l'Allemagne, il faut attendre exactement la même chose qu'ils ont montré pendant la Coupe du Monde, à savoir rester serein. De toute façon, Didier Deschamps, il ne va pas chambouler ses plans. C'est quelqu'un qui joue un peu à l'italienne avec cette idée de défendre, de garder ses buts. on l'a vu pendant, même pendant la Croatie, voilà, on n'a pas fait du grand football, c'est sûr que c'était pas le Barça, mais je pense
qu'on n'a pas été mis en danger finalement.
On n'a pas forcément été mis en danger, mais je pense pas qu'il va complètement changer ses plans. On est presque sûr qu'il va aligner la même équipe que contre la Croatie. Si ce n'est peut-être Adil Rami, pourquoi pas qu'on en parle un peu.
Qui a fait un super match hier soir avec Marseille.
Un super match. Faut le souligner.
On rappelle deux boulettes. Hein, Marseille s'est imposé 3 buts à 2 à Monaco. Mais les deux buts de Monaco, c'est à cause du défenseur marseillais. Timothée, pour assumer ce statut, n'est-ce pas mieux de prendre l'Allemagne qui veut être plus que revanchard après une Coupe du Monde complètement ratée?
Alors voilà, on dit que l'Allemagne a raté sa Coupe du Monde, ça c'est sûr, c'est indéniable, ils ont été éliminés au premier tour, les Allemands, mais c'est une équipe revancharde. Le discours du sélectionneur Joachim Löw est quand même un discours de conquérant, ils veulent repartir de l'avant, et attention aux Pays-Bas qui sont en train de se reconstruire autour d'une équipe jeune et prometteuse, donc c'est quand même deux grosses nations, donc attention à ces deux adversaires.
C'est deux monstres historiques du football, donc dans tous les cas ils profitent d'un vivier qui est quand même impressionnant, je pense. J'avais lu que le football allemand était le football qui comptait le plus de clubs et de joueurs amateurs au monde. Donc rien que ça montre l'étendue de la passion des Allemands pour le football, et c'est pareil pour les Pays-Bas qui est quand même si le Barça joue comme ça aujourd'hui, c'est un peu grâce aux Pays-Bas, c'est notamment Johan Cruyff qui avait posé sa patte.
Exactement. Messieurs, est-ce qu'il y a, même si les joueurs se connaissent, est-ce que le fait d'avoir le titre de champion du monde, il y a un impact psychologique d'entrée sur l'adversaire ou pas du tout? Les joueurs, les Allemands et les Hollandais vont se dire la France ou pas la France, peu importe, on va gagner, ou ils vont se dire hey, c'est quand même les champions du monde en face?
Je pense qu'ils vont se méfier, oui. Je pense que peut-être que tactiquement ils vont être un peu plus fébriles que s'ils jouaient une équipe lambda. Ils vont peut-être, notamment je pense, vu le potentiel offensif de l'équipe de France, peut-être pas essayer de trop se découvrir au début du match. Mais bon, après ça c'est aux Français d'essayer de déjouer les plans.
Marie Keta.
Après moi je me souviens aussi que pendant la Coupe du Monde, l'équipe de France a pas mal été critiquée par les médias étrangers. Alors peut-être que les équipes aussi ont cet esprit de revanche et qu'au contraire ils vont y aller avec leur trip, quoi. Ils vont se dire mais c'est pas parce que c'est les champions du monde qu'on doit rougir.
Non seulement par l'entraîneur du Danemark juste avant le match de poule de la Coupe du Monde, Timothée Rouvière.
Et surtout on va voir comment l'équipe de France joue. On sait que l'équipe de France a adopté une posture défensive pendant la Coupe du Monde, donc on va voir si écarte cette position défensive ou si elle va attaquer avec les jeunes pépites qu'il y a à l'avant.
Messieurs, Hugo Lloris n'est pas là, donc le capitaine, le brassard, va bouger. Il y a eu Raphaël Varane, il y a eu Blaise Matuidi. On a vu que pendant cette Coupe du Monde, malgré son jeune âge, mais on en a parlé tout à l'heure, il a déjà beaucoup de sélections, c'est Paul Pogba, qui s'est révélé finalement durant cette Coupe du Monde, pour moi, sur le terrain, mais surtout, on l'a tous vu hors du terrain, dans le vestiaire. Est-ce que le brassard doit lui revenir ou, connaissant Didier Deschamps, il va être dans la continuité, il va le donner à Raphaël Varane?
Ça dépend s'il aligne Varane, tout simplement. Je pense que
si, pour vous, si Raphaël Varane est titulaire, c'est Raphaël Varane qui a le brassard de
moi,
capitaine.
Moi, je pense que ça va être Varane, parce que ça reste quand même un match important. On se retrouvera en...
C'est pas un match amical, justement.
C'est pas un match amical. On l'espère, on se retrouvera pour le fort.
Final fort, c'est en juin prochain.
En juin prochain, donc c'est pas un match amical, c'est un match sérieux, et je pense que Varane est tout désigné, même si Pogba le mérite.
Moi je suis d'accord avec Marek, voilà, Pogba il a montré qu'il prétendait à ce statut de capitaine, mais on connaît Didier Deschamps, il va rester dans la continuité et donner ce brassard à Raphaël Varane.
Moi j'aime bien que les défenseurs centraux ils aient le brassard, je trouve. J'aime bien...
Ils voient tout
déjà, et puis c'est les mecs qui vont au charbon généralement, donc quand t'as ton capitaine qui y va, il met un gros tacle ou il revient d'une course parce qu'il s'est fait déborder et il arrive à récupérer le ballon, ça te motive quoi.
Et surtout, voilà, Raphaël Varane a une situation plus confortable au Real Madrid que Paul Pogba à Manchester United.
Ouais, on l'a vu, il a raté un penalty ce week-end. Mourinho, il était furieux là.
Ouais.
Bon, Mourinho, il lui faut pas beaucoup pour être furieux. On est d'accord. Kylian Mbappé a pris, on l'a dit tout à l'heure, un carton rouge au Costières à Nîmes à la 93e minute, mais il a encore été flamboyant. Est-ce qu'on a vraiment la nouvelle pépite du football français? On le dit depuis 2 ans, mais là, il assume.
J'irai plus loin que français, j'irai mondial. Il est incroyable, ce joueur. Alors on dit que c'est Neymar, la star du PSG, je suis désolé, c'est Mbappé.
Neymar a pas de bol, il part du Paris Saint-Germain pour faire l'ombre à Messi, on lui met Mbappé dans les pieds.
Sans être un grand spécialiste de football, vous le voyez jouer, c'est incroyable les différences qu'il arrive à créer.
Ah oui, c'est une pépite, il y a Mbappé. Surtout, voilà, on voit qu'en dehors du joueur fabuleux de foot qu'il est, c'est l'état d'esprit, voilà, même si ça a été compliqué ce week-end.
Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que Kylian Mbappé
a fait une très bonne Coupe du Monde grâce indirectement à Olivier Giroud, qui lui a entre guillemets mâché et enlevé tout le boulot pour harceler la défense.
Giroud, c'est ça, c'est son boulot à lui. C'est un travailleur de l'ombre. C'est un type qui fait briller les autres. Il a toujours, il a des grosses qualités de buteur, mais il a en plus cette qualité-là. C'est quelqu'un qui est très altruiste, je pense, dans la vie et sur le terrain. Donc ça m'étonne pas que, enfin, ça n'enlève rien au talent d'Mbappé, mais je pense que c'est le bonus qui aide à ce genre de joueur à briller un peu plus.
Et pour terminer là-dessus, comment motiver un groupe, messieurs, après avoir gagné la Coupe du Monde? Il y a la Ligue des Nations qui arrive, il y a potentiellement la Coupe des Confédérations, si elle a lieu, parce que c'est au Qatar, ils ne vont peut-être pas la faire en été. Il y a encore une fois l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022. Comment motiver tout le monde?
Didier Deschamps, voilà, est un entraîneur, voilà, qui a toujours su motiver ses troupes. C'est l'envie d'aller chercher de nouveaux trophées, de nouveaux records. Et je pense que les joueurs sont formatés comme ça depuis l'enfance. Et Didier Deschamps leur rappelle au quotidien, tous les jours. Donc voilà, c'est l'envie de gagner de nouveaux titres.
Non, mais ça se fait de façon naturelle. Au final, c'est tous des compétiteurs. La Coupe du Monde s'est terminée. Il y a un nouveau challenge, la Ligue des Nations. Pour eux, c'est tout naturel.
Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine. On parlera encore une fois de l'équipe de France. On parlera du Toulouse Football Club, parce que la saison continue, bien évidemment. Le TFC se porte bien, le Stade Toulousain se porte bien. On parlera également du handball, le retour de la Lidl Star League. On se retrouve, nous, lundi prochain. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez dès demain matin Rémi Souloumia, Corinne Saint-Félix et Isabelle Honneil dès 7h et Emmanuel Pella pour Vivante Église à 9h. On se dit à lundi prochain. Bonne soirée à tous.